j'ai remarqué. Mais moi, c'est de plus en plus. Ouais. Ouais. Il faut que je mange.
Bien, mon texte biblique de départ se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 19, verset 30. Je vais vous le lire. Juges 19, verset 30. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Prenez la chose à cœur, prenons les choses à cœur. Dans le contexte, il y a un fait divers atroce qui vient d'avoir lieu en Israël. Je ne vais pas vous donner les détails tellement c'est atroce. Et ce fait divers a été un choc pour toute la nation d'Israël, au point que l'un d'eux a dit « Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » C'est-à-dire, il faut régler les choses. Nous sommes arrivés à un point de déchéance inadmissible. Dans l'histoire des réveils spirituels, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, comme on le voit dans les Juges, ou que ce soit dans la Nouvelle Alliance ou dans l'histoire de l'Église, un réveil commence avec une prise de conscience. Dans ce cas, il a fallu un cas de déchéance, un cas choquant, pour que les croyants se disent « mais ce n'est pas possible, c'est chez nous que c'est arrivé ». On ne réalise pas que nous sommes en train de suivre la déchéance de la société. Savez-vous qu'il y a autant de divorces chez les chrétiens évangéliques que chez les non-chrétiens? Pourtant, on pourrait se dire, quand même, les chrétiens, ils ont le sens de la famille, ils ont la Bible, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la foi. Et pourtant, il y a le même taux de divorce. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous avez plein d'enfants de chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu, qui ont totalement laissé tomber la foi. Pourtant, ils ont été à l'école du dimanche, ils ont reçu plein de choses magnifiques de la Bible, mais ils ont laissé tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps des juges, dans la Bible, est un des temps les plus sombres de l'histoire d'Israël. C'est vraiment la décadence totale. Mais nous aussi, nous sommes dans un temps similaire. La phrase qui résume le temps des juges, vous la connaissez peut-être. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer à aujourd'hui? Chacun fait ce qui lui semble bon. Je ressassais cette histoire incroyable de ce bateau, le Costa Concordia. Même sans trop caricaturer, le capitaine qui avait la responsabilité de milliers de passagers, il a voulu montrer les belles côtes de nuit d'une île à une jolie jeune femme. Il a voulu l'épater. Il dit, viens, tu vas voir, regarde. Et il a demandé au pilote de s'approcher pour qu'on voit mieux les lumières la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau s'est échoué et il y a eu des dizaines de morts. Lui, il faisait ça pour épater la galerie. Normalement, un capitaine, c'est quelqu'un qui a un sens des responsabilités énormes, surtout quand vous avez des milliers de passagers dans votre bateau. Et lui, il s'est comporté comme un adolescent qui voulait épater une jeune fille. Mais je trouve que c'est vraiment symptomatique de notre société. Chacun fait ce qui lui semble bon. De nos jours, c'est l'esprit d'individualisme. Après moi, le déluge. C'est-à-dire, moi d'abord, tout ce qui se passe ensuite, ça m'est égal. On est arrivé à un égoïsme extrême, chacun pour soi, une sensualité sans aucune retenue. Les gens sont soumis totalement à leurs pulsions et ils agissent par pulsion. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de retenue, c'est le laisser-aller complet. Et forcément, l'Église est touchée par ça, parce que nous sommes des pécheurs, nous venons de ce monde, nous sommes dans cette société. Et quand, même quand on se tourne vers le Seigneur, on ramène avec nous ces modes de vie ou ces modes de fonctionnement, et il faut vraiment ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire il faut que notre esprit soit renouvelé pour qu'on change de façon de penser, d'agir, qu'on dise « mais non, mais ce n'est pas comme ça que Dieu le veut ». La Rome des premiers chrétiens, hein, les premiers chrétiens qui connaissaient la ville de Rome, eh bien, aujourd'hui, ils ne seraient pas dépaysés. Hein. C'était le divertissement avant tout. Du pain et des jeux, vous connaissez aussi cette phrase, hein, c'est-à-dire ce qu'on voulait, c'est bien manger et bien s'amuser. Et il y avait les cirques, qui étaient les sortes de salles de cinéma de l'époque, hein, où ils venaient par milliers, quelquefois tous les jours, assister à des spectacles. Alors au début, c'était des combats un petit peu comme de la boxe, hein, des gladiateurs qui se battaient, mais il n'y avait pas de mort. Et puis les organisateurs ont dit, je pense que la foule a besoin de plus. Ce n'est pas assez, juste des petits combats d'épée comme ça, il faut qu'il y ait du sang. Alors ils ont engagé des gladiateurs professionnels et on a dit maintenant, le perdant, il faut qu'il meure. On veut voir du sang. Et après, quand il y a eu les premiers chrétiens qui sont apparus à Rome, qui professaient le nom de Jésus-Christ au lieu du nom de César, on les a arrêtés et on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les chrétiens pour nos spectacles ? Alors on a utilisé ces hommes, ces femmes et ces enfants dans des cirques et on les a donnés en pâture à des animaux sauvages. Ils étaient dévorés sur place devant des milliers de gens qui applaudissaient. Aujourd'hui, avec Daesh, hein, il y a des images sur Internet du même niveau de cruauté, hein, où les gens se font tuer comme ça, comme s'ils étaient des chiens, même pire que des chiens. On soigne mieux nos chiens. Est-ce qu'il y a un moment où il va y avoir une prise de conscience, où on va dire, prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. S'il y a quelqu'un qui doit prendre les choses à cœur, c'est le chrétien. Est-ce que nous sommes des chrétiens endormis, attiédis ? Est-ce que nous aussi, nous ne prenons plus les choses à cœur, on dit « Ah, ben c'est comme ça ». On devient fataliste, ou même on se laisse aller, individualiste. Les églises sont frappées par l'individualisme. C'est très difficile de demander quelque chose à un chrétien. Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ? Ah oui, mais attends, mais moi, j'ai ça à faire. Hein ? J'ai ma vie, mais bien sûr que tu as ta vie, chacun a sa vie. Mais est-ce que ta vie, tu l'as donnée à Dieu ? Est-ce qu'on prend les choses à cœur ? Est-ce qu'on prend nos enfants à cœur ? Lorsque des enfants s'éloignent de Dieu ou de la foi, parfois les parents ont une responsabilité. Pas toujours, hein ? Les enfants aussi ont leur propre personnalité, ils font leur choix. Heureusement, hein, ils ne sont pas obligés de suivre tout bêtement. Mais parfois les parents n'ont pas été des modèles qu'ils auraient dû être. Parfois, les parents surtout n'ont pas prié pour leurs enfants. Rien que ça, de prier pour le salut de nos enfants, pour qu'ils restent auprès du Seigneur ou pour qu'ils soient sauvés quand ils ne le sont pas. Il y a eu, beaucoup plus tard, après le livre des Juges, dans le livre des Rois, un réveil spirituel sous un roi qui s'appelait Asa. J'aimerais vous lire juste quelques versets dans 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Là, ils ont pris les choses à cœur. À partir du verset 1, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Azaria a été rempli de l'Esprit de Dieu pour prophétiser. Azaria alla devant le roi Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, pas de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Il parle du temps des juges, justement. Hein. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, le roi Asa se fortifia et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda. Les abominations, c'est qu'il y avait des sacrifices d'enfants. On sacrifiait son premier-né pour construire sa maison, par exemple. Vous imaginez la chose. Pour bénir sa maison, on offrait en sacrifice son premier-né. Il y avait beaucoup, là encore, de débauches sexuelles que Dieu appelle des abominations. Il fait disparaître aussi, il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon, toutes les tribus. Hein. Un grand nombre de gens se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et je saute au verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ça rigolait pas, là. Hein? Bon, c'était une royauté. Hein? Et le texte nous dit « personne n'a été mis à mort hein, dans cette histoire ». Mais c'était pour dire leur détermination. Maintenant, nous allons chercher l'Éternel de tout notre cœur. Et si quelqu'un dit non, il va être mis à mort. Je pense que tout le monde l'a dit. Il est peut-être temps que je me mette à chercher Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fallait aller aussi loin? C'était une question de survie pour Israël. Aujourd'hui, Israël est continuellement en survie. Hein. Ils ont des menaces de guerre, de bombes atomiques dans tous les sens. Ils sont en permanence, est-ce qu'on va exister encore le mois prochain? Est-ce qu'il n'y a pas une bombe qui va nous tomber dessus et on va tous mourir? Mais leur survie à Israël, ce serait surtout de se tourner vers l'Éternel. Pas de mettre des missiles antimissiles, mais de se confier dans leur Dieu. Nous aussi, notre survie, c'est de nous tourner vers le Seigneur, de le chercher de tout notre cœur, de prendre les choses à cœur, d'avoir une repentance profonde. Parfois, on a juste de l'émotivité religieuse. On dit « Ah, oh, oh là là, j'ai entendu cette chanson, j'ai entendu ce message et j'ai pleuré. Ben, c'est bien. Et après ? Ben après, rien. Ben oui, mais si après, il n'y a rien, c'est que c'était juste au niveau de l'émotion. Mais pour que ça descende dans le cœur, il faut qu'il y ait une repentance. Il faut dire « Seigneur, là, tu m'as parlé. » Là, ta parole, quand je la lis, elle me touche. Je veux obéir. Ça, c'est la repentance. Il y a un mouvement du cœur. Le roi, là, il a été touché par cette prophétie. Il aurait pu dire, mais c'est moi le roi ici. Qui es-tu pour me parler comme ça? Mais il s'est soumis à la parole de Dieu, hein, ce grand roi Asa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, oh, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Non, il a nettoyé le pays. Des idoles, des abominations, des hauts lieux. Et il a rétabli la foi et le culte envers Dieu. Il a fait le ménage. Un chrétien qui se réveille, il fait le ménage dans sa vie. Il prend les choses à cœur. D'un seul coup, il ouvre les yeux et dit, mais je suis négligent. Je suis négligent. La Bible dit hein, que la négligence est pire que la destruction. Hein. Parce que négliger, c'est laisser les choses se défaire toutes seules, s'écrouler, pourrir. On ne doit pas laisser les choses pourrir. Le temps ne joue pas avec nous. Pendant que nous sommes négligents, il y a le monde spirituel, il y a Satan, les autorités, les dominations dans les lieux célestes qui, elles, travaillent. Eux, ils travaillent. Ils ne prennent pas de vacances. Ils travaillent pour détruire les âmes, pour pousser les gens au péché, pour les envoyer avec eux en enfer. Nous, on doit prendre les choses à cœur. Commencer par prier, par se mettre devant Dieu. Il y a l'exemple de notre Seigneur Jésus dans les évangiles. S'il y a quelqu'un qui a pris les âmes à cœur, c'est bien le Seigneur Jésus. Déjà, il est venu. Il aurait pu ne pas s'incarner, ne pas devenir un homme. Il aurait pu rester dans la gloire céleste, adoré par les anges, les saints anges, et il aurait pu regarder notre terre avec un œil de dédain et dire « Vraiment, ils ne valent pas la peine, ces êtres humains, je vais les détruire. » D'une pichenette, il aurait pu anéantir la terre. Mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est amour. Il nous a créés par amour et il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il est venu lui-même. Il n'a pas envoyé un message simplement sur papier, bien qu'on ait la Bible, hein, mais il est venu lui-même en la personne de Jésus. Et quand Jésus a commencé son ministère, il a pris les choses à cœur. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a négligé personne ? Un jour, on lui amène des petits-enfants. Dans la société juive, les tout-petits-enfants n'avaient pas d'intérêt. C'était à 12 ans que vous aviez votre bar mitzvah, et là, vous deveniez un homme. Avant 12 ans, vous étiez un enfant. Et je pense que dans notre société, c'était un peu ça, à une certaine époque. Tant que tu n'étais pas adolescent ou adulte, c'est un petit gamin, allez, laisse-moi tranquille. Jésus n'était pas comme ça. On lui amène des petits-enfants, il les prend avec lui. Il leur parle. Il dit... Il faut leur ressembler pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus va voir les lépreux. Les lépreux étaient dans un quartier spécial dans chaque ville parce que c'était contagieux, parce que c'était impur. Et donc, ils étaient parqués. Ils étaient recouverts pour cacher leurs plaies. Ils étaient tous en train de mourir les uns après les autres. On venait leur jeter de la nourriture. Les familles qui étaient encore aimantes avec eux, qui prenaient encore attention, on leur jetait de la nourriture, on leur apportait de l'eau, ils n'avaient aucun moyen de subsistance. Et Jésus, il est allé chez les lépreux, il les a touchés, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Les lépreux, c'était vraiment la dernière personne que vous alliez voir. Ça n'avait aucun intérêt, c'était des gens morts déjà. Mais Jésus, il est allé les voir. Jésus s'est occupé des personnes plus âgées. Il s'est occupé des femmes, des hommes, des veuves, des riches, des religieux, des publicains qui étaient des sortes de matérialistes athées, qui n'avaient rien à faire de Dieu, qui ne pensaient qu'à l'argent. Il est allé leur parler, il est allé voir Zachée, il est allé dans la maison de Zachée. Même ça a choqué les gens, ils ont dit « Oh, qu'est-ce qu'il va faire dans la maison de Zachée ?» Il est allé dans la maison de Matthieu, un douanier qui travaillait lui aussi forcément en partie pour Israël et en partie pour les Romains. C'était un traître aux yeux des autres. Et il a mangé avec Matthieu et ses amis. Et là encore, on était choqués parce que Jésus prenait les âmes à cœur. Il a dit « À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Jésus savait évidemment l'importance de l'âme. De l'éternité de l'âme. Aujourd'hui, nous sommes tellement dans la superficialité, dans l'apparence, dans le corps, tout est dans le corps. Et l'âme, qui s'occupe de l'âme, de son âme ? Jésus s'est occupé de cette femme qui avait une perte de sang. Il était là entouré par une foule, il allait s'occuper d'une petite fille qui était morte. Là, on dit... Quand même, s'il y a une gradation dans les problèmes, une petite fille qui est mourante, c'est au-dessus d'une femme qui a des problèmes, n'est-ce pas, de perte de sang. Eh bien, Jésus s'est arrêté en chemin. Cette femme l'a touchée pour être guérie et il s'est arrêté, il s'est retourné et il a eu quelques minutes de discussion avec cette femme. Il lui a dit « Ta foi t'a sauvée ». Nous a pris à cœur. Au point même qu'il est allé jusqu'à la croix pour nous. Il est allé jusqu'à mourir pour des impies, des pécheurs que nous sommes. Il s'est laissé crucifier. Il aurait pu ne jamais être arrêté, ne jamais être crucifié. Pourtant, il a accepté d'aller au bout par amour, parce qu'il prenait à cœur nos âmes, notre éternité. Il est dit que Dieu avait prédestiné le Seigneur Jésus avant la fondation du monde. Avant même de créer le monde, Jésus était là, était prêt. Le Fils de Dieu était prêt. Allez nous sauver. Nous devons aussi prendre à cœur les choses spirituelles, comme le Seigneur Jésus. Quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, qu'est-ce que Jésus a répondu ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il n'a pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu le dimanche matin entre 10h et midi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu quelques minutes par jour, ou quand ça t'arrange, ou quand ça t'intéresse, ou quand t'es en forme, quand t'es pas malade, ou quand t'es ceci. Non. Il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ça, prendre les choses éternelles, spirituelles à cœur. C'est d'y mettre tout son cœur. C'est de ne pas avoir Dieu comme un hobby. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Moi, je travaille et puis le dimanche, je joue au golf. Ah, super. Et toi? Moi, je travaille et le dimanche, je vais à l'église. Ah, c'est bon, c'est différent, d'accord. Chacun ses hobbies. Est-ce que c'est un hobby, la foi? Tu aimeras l'éternel. C'est des choses éternelles. On parle des choses spirituelles. Il y a le jugement, il y a l'enfer. Ce n'est pas des choses légères. Si vous ratez votre séance de golf, ça va, c'est pas grave. Mais si vous ne priez pas pour une âme, son éternité est en jeu. Pierre, l'apôtre, dans sa lettre, 1 Pierre 1, 22, il nous dit comment on doit s'aimer les uns les autres. On doit aimer Dieu, mais on doit aussi s'aimer les uns les autres. 1 Pierre 1, 22. Et là, c'est l'intensité qui est intéressante. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il faut mettre les choses à leur place. Il faut d'abord purifier son âme en obéissant à la vérité, pour avoir cet amour-là, cet amour fraternel pour les autres frères et sœurs en Christ. Mais cet amour fraternel, ça ne doit pas être un amour, une amitié de club. Ah oui, moi je m'entends bien avec un tel et un tel dans l'église. Ah ouais, ouais, on fait des trucs ensemble, on s'appelle, super. Ça, c'est une amitié de club. Là, il parle d'un amour fraternel sincère. Il dit « aimez-vous ardemment ». C'est-à-dire, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je ne supporterai pas que mon frère ou ma sœur souffre, soit dans le péché, soit dans les liens du diable, soit perdu. Ou... Je ne supporte pas, je prie. J'aide, j'intercède, je viens à son secours. Même si cette personne a beaucoup de problèmes à me raconter, je l'écoute. Je ne dis pas, écoute, j'ai mon film là. J'ai ma série télé, tu me rappelles la semaine prochaine hein? Non, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je l'aime ardemment. Et même le chant, écoutez, Éphésiens 5, 19. Quand on chante les cantiques, on doit les chanter comment? Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce qu'on chante timidement? Vous me dites, mais moi, je ne sais pas chanter. Peu importe qu'on sache chanter ou pas. On ne demande pas de chanter comme Pavarotti ou la Callas. Ce qui compte, c'est de tout cœur. Il n'a pas dit avec un talent extraordinaire. De tout cœur. Mais quand je chante, est-ce que je pense aux paroles? Est-ce que quand je chante pour la gloire de Dieu? Là encore, notre cœur est tellement tortueux. Il y a des personnes qui chantent parce qu'ils aiment chanter. Moi, j'aime bien chanter, mais très bien. Mais tu peux chanter une chanson de variété populaire, Joe Dassin ou je ne sais pas qui. Mais chanter des cantiques, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour remercier Dieu. C'est parce que, en fait, notre cœur déborde. C'est David et il dit, tu as mis dans mon cœur un cantique nouveau. Quand j'étais un croyant, j'écoutais beaucoup de musique, de la musique rock. Et c'était assez sombre, assez rythmé, beaucoup de batterie, de guitare, etc. Quand je suis devenu chrétien, petit à petit, j'ai laissé tomber ces disques parce que c'est tombé tout seul. Parce que j'avais un cantique nouveau. Moi, j'avais envie de chanter les louanges de Dieu. Or, la musique rock ne se prêtait pas vraiment. Et j'ai commencé à chanter les cantiques. Et mes parents, comme je vivais avec eux, Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Pas possible. On passe de Genesis et je sais pas qui, Supertramp, toute mon époque, là. Ils chantent des cantiques, ça parle de la foi de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais un cantique nouveau. C'est pas que le pasteur m'avait dit, bon, allez, maintenant, tu jettes tous tes disques et il faut que tu chantes des cantiques exclusivement. Hein? Personne ne m'a rien dit. C'est que moi, j'avais envie, dans la semaine, de chanter des cantiques parce que j'aimais le Seigneur. J'étais rempli de l'amour de Dieu, de la joie du Seigneur. Chanter de tout cœur. On doit prendre tout à cœur dans l'Église. Je reviens sur le ménage. C'est pas le ménage tellement, c'est la propreté. Est-ce que notre Église est un bon témoignage? Est-ce que on néglige notre Église en disant, oh ben, de toute façon, moi je viens, les autres, ils n'ont qu'à faire le ménage. Hein. Mais les autres, c'est qui? C'est ceux qui disent aussi, ah ben, moi je viens, les autres, ils n'ont qu'à faire le ménage. Alors, les autres, c'est qui? Est-ce qu'on a à cœur notre assemblée, nos frères et sœurs? Est-ce qu'on a à cœur les Parisiens? Est-ce qu'on a à cœur nos voisins? Est-ce qu'on a à cœur nos collègues? Est-ce qu'on a à cœur nos familles, nos enfants, nos parents, nos cousins, nos oncles? Paul souffrait, il écrit aux Philippiens, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » C'est triste, ça c'était au début de l'Église, vous rendez compte? Déjà. Personne ne s'inquiétait des Philippiens. Les Philippiens étaient en difficulté, il y avait des persécutions, il y avait des divisions. Et Paul, qui était en prison, il intercédait jour et nuit pour eux. Il pleurait pour eux, il écrivait, il a écrit cette longue lettre aux Philippiens pour leur dire « Restez près du Seigneur ». Et les autres serviteurs de Dieu ou les autres chrétiens qui l'entouraient, les Philippiens, bah, ils se débrouillent. Hein. Est-ce que j'ai à cœur le peuple de Dieu? Est-ce que j'ai à cœur mes frères et sœurs? Est-ce que j'ai à cœur les églises? Nous voyons qu'il y a un manque de pasteurs en France, il y a un manque d'évangélistes pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a un manque de chrétiens, tout simplement. Est-ce qu'on va dire, ah, c'est la fatalité, c'est la fin des temps, c'est l'apostasie? Ou est-ce qu'on va prendre les choses à cœur? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on prenne les choses à cœur? Il faut se réveiller, il faut que le Saint-Esprit nous touche. Alors, dans le livre des Juges, c'était quelque chose d'abominable, d'atroce, que Dieu nous préserve, mais nous en voyons tous les jours des choses atroces quand même. Et je peux vous dire, en me renseignant sur la santé des églises dans le monde, hein, des églises évangéliques, puisque nous sommes une église évangélique, c'est un peu catastrophique, hein, ce qui se passe. Le comportement des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des églises. Heureusement, bien sûr, il y a toujours des églises fidèles, des frères fidèles. Il y en a encore beaucoup, et parce que Dieu est fidèle. Mais à nous de nous remettre en question, de dire, est-ce que je prends vraiment à cœur les choses éternelles? Ma propre âme, ma propre vie avec le Seigneur et ceux qui m'entourent, est-ce que je les ai à cœur? Alors que le Seigneur nous donne ce fardeau, lui, il avait un fardeau pour les âmes. Et il veut nous le confier, il veut le partager avec nous. Que le Seigneur nous aide et nous enlève cette légèreté du monde pour pas être des gens accablés, des gens qui ont le poids du monde sur leurs épaules, parce que nous devons être joyeux aussi. Mais il y a une différence entre la joie et la gaieté. La gaieté, c'est léger, c'est... Mais la joie... C'est cette joie profonde qui vient du Saint-Esprit, d'être dans l'amour de Dieu, d'être entre frères et sœurs, de faire des choses comme ceux qui ont distribué hier. Il y a une joie à apporter une invitation aux gens, à leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, la bonne joie que Dieu veut pour nous. Terminons par la prière. Seigneur, tu nous appelles à prendre les choses à cœur et nous voulons confesser notre légèreté, notre négligence, notre manque de profondeur, notre manque de prière, d'intercession. Nous ne cherchons pas assez souvent ta face, Seigneur. Nous ne saisissons pas assez toutes les promesses de Dieu dans l'Écriture. Nous ne sommes pas assez témoins autour de nous. Nous ne réalisons pas assez ton retour proche et la vie qui nous attend, la vie éternelle. Seigneur, veuille nous pardonner, nous purifier. Donne-nous vraiment un esprit de repentance et qu'on puisse vraiment être profond, sérieux, engagé, consacré, rempli de l'Esprit et que notre vie porte du fruit, que nos vies influencent ceux qui nous entourent. Je prie spécialement pour nos enfants. Seigneur, que tous marchent avec Dieu, qu'aucun ne soit perdu le long du chemin. Nous intercédons pour eux, pour leur salut et pour leur vie spirituelle. Et nous te les remettons au nom de Jésus-Christ. Amen.